Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 2 mars, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, je sais pas dans votre coin, mais disons que les 2, 3, 4 centimètres de neige qui étaient prévus pour la nuit sont pas tombés. On parle plutôt pour Montréal de bruine verglaçante, peut-être même un peu de pluie par endroit. Cependant, on prévoit que 2 ou 4 centimètres de neige devraient tomber sur Montréal aujourd'hui et le maximum va tourner autour de 1 degré. Alors, ce qui fait que quand on est comme ça autour du point de congélation, ça peut basculer dans un sens ou un autre. D'ailleurs, il y a des avertissements de pluie verglaçante du côté d'Ottawa. Et normalement, ça nous touche également ici. Ce soir et cette nuit, c'est un dégagement, moins 10 pour la nuit. Et puis demain, vendredi, c'est une très belle journée. On a du soleil, moins 2 degrés. Par contre, dans la nuit, la neige revient. Et au total, on devrait se retrouver avec samedi, une journée assez nuageuse, précipitation, 10 à 15 cm. Et finalement, dimanche, 4 degrés, ciel nuageux, ce qui veut dire que ça va fondre. Puis même pour le début de la semaine, on prévoit 3 journées ensoleillées, des températures au-dessus de zéro. Et par exemple, lundi, c'est du soleil, 4 degrés. Je commence ce matin par la une du Journal de Montréal, parce que ça fait énormément réfléchir. C'est l'histoire d'une femme de 86 ans qui se retrouve à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Elle est hospitalisée dans le corridor de l'urgence et elle est décédée, disent les membres de sa famille, sans soins réels, sans nourriture et sans eau. Gilberte Gosselin, c'est le nom de cette femme de 86 ans, qui est donc décédée. Elle s'est retrouvée à l'hôpital après avoir eu une fracture de la hanche. On l'a installée sur une civière dans un corridor. Il y a eu des tests. Un orthopédiste qui a proposé une chirurgie. Bien qu'à son âge et compte tenu de son état de santé, il y avait possiblement un risque. Et ce qu'on a pu constater, c'est que son état général s'est dégradé extrêmement rapidement. Et puis, on a dit à la famille, votre mère est en fin de vie. Et ce qui fait qu'on a demandé une chambre, évidemment, plus intime. Votre mère est en train de vivre ses derniers moments. Vous ne voulez pas que ça se passe dans le corridor. Finalement, on n'a pas trouvé de chambre. On l'a déplacée à 2 reprises dans un coin de la salle d'urgence avec des rideaux. Là, je vous dis toujours ce que racontent les membres de la famille. Et que on l'a laissée souillée. Pas vraiment de personnel autour d'elle. Aucun membre qui lui a offert quelque chose à manger ou à boire. Ça a duré 48 heures. Et puis finalement, elle est décédée. Je reprendrai pas toute la discussion au sujet des conditions de fin de vie. Madame André Simard, on sait que ça fait l'objet d'une enquête. La veuve de Robert Bourassa. Et c'est toujours le principe de base qu'il faut retenir, c'est qu'on a le droit à des soins et on n'a pas à souffrir. Il existe des façons de mourir et il n'y a pas que l'aide médicale à mourir. Il y a d'autres façons d'être accompagné pour ses derniers moments de vie. Et si tout ça se confirme, parce que là, la version de l'hôpital, c'est que nous sommes en mode analyse. Je vous disais la dernière fois, quand je parlais de Mme Simard, il y a plein de gens au Québec qui meurent parce qu'on n'est pas capable de leur donner le traitement requis. Il n'y a pas de place aux soins palliatifs, on manque de personnel sur les autres étages, et il y a des gens qui souffrent et qui n'ont pas à souffrir. Et, je le répète, si ça est vrai, c'est inadmissible. C'est inadmissible que cette femme-là ait autant souffert et que ce sont des conditions dégueulasses comme fin de vie. C'est dans le Journal de Montréal que vous retrouvez ça. Par contre, dans le réseau de la santé, il y a quand même des choses formidables qui se font. Et c'est l'histoire, ce matin, qu'on va vous raconter d'une jeune femme, elle s'appelle Jeanne, qui a fait une tentative de suicide. Et depuis, elle n'a plus de sensation, je vous dirais pratiquement du cou, là, jusqu'au bas du corps. Et elle a donc été opérée parce qu'elle était vraiment sans contrôle. Elle était tétraplégique. Et grâce à une intervention d'une équipe de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, elle a pu retrouver l'usage de ses mains. Et docteur Dominique Tremblay, qui sera avec nous, qui est chirurgienne, lui a proposé une nouvelle approche, un nouveau traitement. Et il faut saluer l'équipe de Maisonneuve-Rosemont qui est dans l'avant-garde, qui initie des façons de faire. Et grâce à cette intervention, elle a pu retrouver donc l'usage de ses bras. Elle demeure paraplégique, mais c'est quand même fantastique. Et ça se fait ici au Québec, et il y a d'autres patients, patientes qui ont pu bénéficier. Essentiellement, la méthode consiste à aller chercher des nerfs qui sont dans les avant-bras, des nerfs qui sont fonctionnels, pour tout simplement stimuler les nerfs qui sont inactifs. Et, au terme du processus, ça prend quand même un certain temps, ben les muscles revivent et ça lui permet donc à nouveau de pouvoir se servir de ses mains. Alors, docteur Tremblay sera avec nous et Jeanne également. Je reviens sur le dossier de l'assurance automobile du Québec. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on est seul dans le coin en disant, je reçois plein de courriels de mes auditeurs, de mes auditrices qui me racontent des ratés multiples à la société d'assurance depuis l'implantation du nouveau système le 21 février. Nous sommes le 2 mars. Puis les Québécois sont bons. Les Québécois se disent, bon, c'est normal qu'il y ait des ratés, c'est normal que, tu sais, nouveau système. Puis la migration avec autant de fichiers. Nous sommes du bon monde. Mais là, ça commence à faire. Et si on ne pose pas la question, la société d'assurance automobile prend pas les devants, là, en disant, voici ce qui se passe. Il faut constamment aller leur tirer le bras en disant, pouvez-vous répondre à nos questions? Ce matin, le PDG va être là. Mais je vous donne des exemples de ce que les gens nous racontent. D'abord, des files d'attente interminables dans les succursales. Des gens qui se présentent très tôt le matin, qui espèrent avoir un numéro pour passer. C'est à la fois difficile d'avoir du service en ligne, puis c'est à peu près impossible d'avoir du service dans les succursales. Donc, les gens ont tenté de s'inscrire, ça n'a pas fonctionné. Il y a des dossiers à régler, par exemple. Je vous donne un cas, là, il y a quelqu'un qui m'écrit ce matin, qui est rendu à son troisième transit. Normalement, c'est 10 jours pour régler ça. Puis avec l'implantation de l'application, là, du nouveau système, on en donnait 2 au cas où ça fonctionne pas. Puis elle est rendue à 3. Deuxièmement, les paiements en argent comptant ou en chèque parce que le système de paiement Interac fonctionnait pas. On nous a dit hier que ça avait été corrigé hier matin. Vrai ou pas, je sais pas. Et l'autre chose, des gens qui ont voulu louer une voiture et qui ont déposé leur permis de conduire, puis le permis de conduire dans la machine est pas valide. Pourtant, là, la personne, tout est correct. Ça a été renouvelé, ça a été payé. Et savez-vous quoi? Il y en avait plusieurs comme ça. Puis c'est des gens là qui prennent une semaine de relâche avec leurs enfants, qui se louent un véhicule parce qu'ils n'ont pas d'auto. Puis là, ça marche pas. Pas capable de louer. Une jeune fille conduit son véhicule, renouvelle ses plaques. Le paiement de la société d'assurance auto est passé. Pour les plaques d'immatriculation, 250. C'est écrit dans le compte. Payé, retiré. Se fait intercepter par la police. Madame, vos plaques sont pas payées. Ben oui, j'ai payé. Non. 500 $. Faut aller te battre en cour pour renverser ça. Alors, il y en a combien d'histoires comme ça? De problèmes avec le système, de rendez-vous qui sont rendus au mois de mai, que ce soit pour un examen, et même dans certains cas, pour des opérations là, qui sont urgentes. Puis, c'est pas tout le monde là, qui a des ressources, le temps d'aller passer 3-4 heures faire la ligne à l'extérieur ou à l'intérieur parce que leurs données système fonctionne pas comme promis. Là. Puis, tu sais, on nous a dit, ça va être extraordinaire. Ça va sans doute finir par l'être. Mais là, ils ont intérêt à être transparents. Puis la ministre Guilbeault, qui est responsable, elle devrait demander des comptes. Parce que pas beaucoup d'entreprises privées pourraient se permettre de fermer pendant 3 semaines. Imaginez une banque qui dirait, nous autres, on ferme pendant 3 semaines parce qu'on change le système. Puis là, tu reviens, puis t'es pas capable d'avoir accès à ton compte. T'es pas capable de retirer de l'argent au guichet. Je pense que la banque aurait un certain nombre de problèmes. Bon, les produits de vapotage. Ça fait longtemps que c'est dans le décor, les avis de santé publique. Et la presse nous dit ce matin qu'il y a un projet de règlement qui est sur le bureau de Christian Dubé. Essentiellement, c'est pour interdire l'ajout de parfums, menthe, tout ça pour décourager les jeunes de vapoter. On a vu hier ce sondage qui montre 2 choses. D'abord que le vapotage est omniprésent chez les jeunes. Il y en a beaucoup, je pense de mémoire, c'est 1 sur 4. Même la consommation de tabac. Semble-t-il, malgré le prix des cigarettes et tout ça, là, reprend. C'est comme une petite courbe vers le haut. Et l'idée de la santé publique, c'est de dire, il faut pas que ça soit attrayant. Bon, puis je reçois des courriels de gens qui prennent, qui vapotent parce que c'est pour une transition pour arrêter de fumer. Puis ce sont des adultes. Puis ils ont un choix, puis... Tu sais, le gars, il me dit, moi, j'aime ça avec la menthe. Pourquoi est-ce qu'on m'enlève ça? J'ai arrêté de fumer, c'est grâce à ça, ça a été ma béquille, puis je m'en sers encore une fois de temps en temps. Bon, je n'entrerai pas dans les détails. Je comprends qu'on ne veut pas rendre ça, disons, le fun pour les ados. C'est comme les produits du cannabis, c'est du chou-fleur séché, puis ça pouvait être le plus repoussant possible, c'est ce qu'il ferait, là. Mais moi, je ne suis pas un zélé dans ces questions-là. Puis, on sait pourquoi la vapoteuse a été créée, elle a été recommandée par des médecins en disant c'est mieux ça que de fumer. Et c'est une forme de transition. Alors c'est peut-être pour ça aussi que le projet de règlement traîne en question depuis longtemps. Bon, il y a cette histoire bien bizarre dont Fred nous parlait hier matin, là, de ce cerf qui a été abattu par la police, qui était blessé, 13 coups de feu. Puis pas un après l'autre, là. C'est un animal donc... qui avait les pattes fracturées. Puis c'était la chose à faire. Sérieusement, j'ai entendu à peu près tout le monde hier commenter ça. Et j'arrive pas à comprendre comment il se fait qu'on a tiré 13 fois sur le cerf pour finalement l'abattre, là. 13 balles. Hier, j'entendais des experts dire, normalement, 1 balle, 2 balles, 3 balles, peut-être. Mais 13, pas trop ce qui est arrivé, là. Et des cerfs, il y en a partout. Il y en a dans les rues de Longueuil. Mes camarades ici, Catherine, Marc, ils en voient partout. Et comme dit Catherine, là, c'est pas juste le matin quand on s'en vient travailler ou la nuit. Là, ils grignotent les haies de cèdre, ils se promènent dans la rue. Puis c'est dangereux dans le sens où il peut y avoir des accidents. Disons qu'ils sont pas trop farouches. Alors, et la population est importante. Puis évidemment, autour du parc Michel Chartrand, c'est aussi quand même assez dense comme population de chevreuils. Des gens qui m'envoient des photos puis des commentaires sur des rues très, très tranquilles, normalement, puis t'envoies 3-4 arrivées. C'est assez spécial. Bon, le dossier de l'ingérence chinoise. D'abord, la Fondation Trudeau va remettre le 200 000 $ qui était un don d'un milliardaire chinois, mais soutenu par le gouvernement. On avait dit à ce milliardaire, faites donc cette contribution, puis on va vous remettre l'argent. C'était 1 million au total. C'était 200 000 à la Fondation Trudeau. Je pense qu'il y avait 750 000 pour la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Tout ça pour créer des rapprochements avec la Chine, construire des statuts. Alors, on a décidé de retourner l'argent avec ce contexte de controverse. D'autre part, M. Trudeau refuse, lui, de s'engager à tenir une commission publique d'enquête sur le rôle joué par les Chinois. Et on parle ici d'un rôle important, là, que ce soit dans la propagande, dans l'approche de candidats libéraux pour l'élection, également dans des stratagèmes pour obtenir des informations d'affaires, de business, des informations donc stratégiques, technologiques. Puis on verra ce que donnera le procès de l'employé d'Hydro-Québec. Et ça fait beaucoup de choses autour de l'ingérence de la Chine. Et comment on tente de manipuler. Puis il y a ce rapport fait par, disons, un ami de M. Trudeau, qui finit par dire, oui, comme tout le monde, comme les Russes, les Chinois, ils font des tentatives, mais ça n'a pas été déterminant. Alors, pour l'instant, donc, M. Trudeau ne dit pas non, mais il ressemble à Jean Charest, quand on le questionnait, aller vous faire une commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Puis c'était non, puis c'était non, puis c'était non, puis la police peut faire le travail. Puis finalement, avec la pression, alors, il l'a fait. Également, ce matin, je vais vous parler encore une fois d'un cas de hockey mineur. La Fédération des clubs de hockey mineur de Saint-Jérôme qui a décidé de radier un parent. Faut le faire, là. C'est Radio-Canada qui raconte ça. Un vote unanime la semaine passée pour chasser ce parent turbulent pour les 6 prochaines années. Alors, on lui reproche à ce père l'utilisation d'un langage abusif, insultant envers les arbitres, les bénévoles, les joueurs, les parents, de sa propre équipe en passant aussi, puis les équipes adverses. On l'a convoqué à 2 reprises pour ses comportements, puis il recommence sans arrêt. Il y a personne qui a enduré ça. T'es un jeune arbitre, ça fait pas partie là d'un environnement quand des enfants s'amusent à jouer au hockey. Puis il y en a, qu'est-ce que vous voulez, on l'a vu là, l'arbitre qui se fait crier après, le coach se fait crier après, des enfants se font crier après. Alors lui, le père en question, il se fait carrément barrer. Et un des effets vicieux de ces malades d'aréna, puis je sais pour avoir fait pas mal de tribunes là-dessus, t'as-tu le goût à 16 ans de te faire créer des bêtises parce que tu donnes du temps comme entraîneur d'une équipe, mettons, de kids? As-tu le goût de te faire crier après quand tu vas arbitrer des matchs pour une poignée de change? Tu fais ça pour faire du sport, puis c'est une implication. Puis là, t'as des frustrés dans les estrades qui se projettent dans leur progéniture puis qui délirent comme ça. Alors, mais c'est assez rare là qu'on va jusqu'à la radiation. Dossier du transport en commun, on en a parlé hier matin. Bon, si je résume, là, on cherche des usagers. On veut remplir les autobus, le métro. Avec le télétravail, donc les conséquences de la pandémie, on n'a pas retrouvé, en termes d'achalandage, les niveaux de 2019. Les gens voyagent moins, font des petits parcours, et ça coûte de plus en plus cher. Et là, ce qu'on dit aux sociétés de transport, là, l'autorité régionale, ben là, vous allez faire le ménage dans vos finances. Et savez-vous quoi? Moi, quand on m'explique qu'on va couper 18, 20, 25 millions puis que ça touche pas le service, je ne crois jamais ça. Ça finit tout le temps par avoir un impact sur le service. Exo a besoin de 30 millions. Et là, on nous dit, oui, mais on va réinventer les façons de faire. Tout ça est louable, c'est toujours pareil, c'est merveilleux. Puis que les autobus soient, disons, remplis à capacité le plus possible. On a un sondage ce matin qui nous dit que 40% des personnes aînées vont se promener davantage en métro et en autobus avec la gratuité. Parfait. Mais est-ce qu'on va être capable, parce que des conventions collectives, disons, assez corsées, chauffeur de Laval qui prend des passagers à Montréal, as-tu le droit de faire ça? Puis est-ce qu'on va converger les autobus vers des garages? Est-ce qu'il y a des économies d'échelle à faire? Je le sais pas. Mais on sait que de nouveaux termes populaires, autant dans les négociations du secteur public pour ce qui est du transport en commun, ce sont des chantiers. Nous avons le chantier sur les cônes à Montréal qui s'amorce, le grand sommet. On a les chantiers de Mme Lebel avec les syndicats. Puis d'ailleurs, ils veulent pas participer. C'est assez le dialogue de sourds. Puis là, on a un chantier qui s'en vient également avec Mme Guilbeault pour ce qui est du transport en commun. Et aussi, rapidement, je termine sur cette histoire qui est dans la presse au sujet des distilleries. Ils ont déposé un mémoire au ministre des Finances en disant que s'il n'y a pas d'aide financière de Québec, ils vont fermer. Là, on parle de ceux qui font, par exemple, des gins. Puis les gins québécois sont extrêmement populaires. Sauf que, et je vous donne le chiffre, en l'espace de 5 ans, ils sont passés de 12 micro-distillateurs au Québec à 70. Puis là, la demande a atteint comme une espèce de plafond. Alors, c'est une industrie qu'on retrouve beaucoup en région, créent des emplois, des produits de qualité, mais là, ils sont comme trop à tourner autour de la table, puis il n'y a pas assez de consommateurs pour répondre à leurs besoins. Donc, il y en a qui pourraient malheureusement fermer. On y reviendra.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je pense que nous sommes tous assez connectés sur les chiffres, les indicateurs économiques. Quand on regarde l'inflation, quand on regarde les taux d'intérêt, et on a cette réalité aussi quand on fait l'épicerie, de voir pratiquement chaque semaine la facture qui augmente. Ce matin, on va regarder un peu le paysage économique du Québec, puis on va regarder une banque en particulier, c'est la Banque nationale. Son président et chef de la direction est avec nous, Laurent Ferreira. Monsieur Ferreira, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Ben, d'abord, je vais vous demander à vous votre lecture de l'état de santé de l'économie au Québec alors qu'on se prépare à avoir un budget le 21 mars. Ça ressemble à quoi ici, là?
Bon, Monsieur Arcand, les effets de la politique monétaire commencent à se faire ressentir, là. On le voit dans le comportement des consommateurs. Donc, nettement, là, au niveau de la consommation, au niveau également de l'octroi hypothécaire. Donc, un ralentissement marqué dans les 3-4 derniers mois. On le voit également au niveau des investissements en entreprise. L'octroi de crédit a baissé également là, depuis quelques mois. Donc, le ralentissement se fait sentir et ça, on risque de voir ça encore là, pour plusieurs trimestres.
Est-ce que vous me parlez d'une récession?
C'est très difficile. Un ralentissement, c'est clair. Alors, la définition d'une récession, c'est un PIB en décroissance pendant deux trimestres. Oui, est-ce qu'on peut avoir de la décroissance? Oui. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une récession typique avec une montée du chômage? Je ne pense pas.
Parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre.
En partie, on est en pénurie de main-d'œuvre. On a un enjeu démographique. En ce moment, pour chaque travailleur qui rentre dans le marché du travail, il y en a trois qui prennent leur retraite, M. Arcand, au Québec. Alors, c'est un enjeu quand même structurel qui fait en sorte que on risque de pouvoir passer à travers un ralentissement sans chômage excessif.
Je reviens sur la notion des prêts hypothécaires, là. Est-ce qu'on est dans une période où de plus en plus de gens se heurtent à l'incapacité de payer, c'est-à-dire qu'ils étirent dans le temps, donc sur un prêt au lieu de 25-30 ans? Vous faites face à quel genre?
Donc, le tiers de nos hypothèques sont à taux variable. On a déjà vu l'impact chez nos clients. Ça va très bien. Donc, nos clients, en ce moment, sont capables d'absorber la hausse des taux d'intérêt. Maintenant, on a vu, dans le renouvellement hypothécaire, on a vu plusieurs personnes renouveler à plus court terme, du 6 mois, du 1 an. Ça, c'est pas une bonne chose. Parce que moi, je ne pense pas que les taux d'intérêt vont baisser rapidement. Et donc, on va voir pendant plusieurs années, je dirais 23, 24 et 25, l'impact des hausses de taux d'intérêt sur les renouvellements hypothécaires. Et jusqu'à date, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous nos clients, là, on leur parle, on est près d'eux autres, et on voit pas tant de difficultés que ça en ce moment. Est-ce que ça va continuer? C'est pas clair.
Dans ce contexte, est-ce qu'une baisse des impôts au Québec, c'est une bonne idée?
Ah, bonne question. Je pense qu'à court terme, ça pourrait aider. Mais là, si vous parlez un peu là, de budget, moi, ce qui m'importe plus, puis là, je peux inclure le fédéral là-dedans, c'est d'avoir des politiques porteuses à long terme, à saveur économique, de croissance économique.
Donnez-moi un exemple de ce que vous voulez dire par ça.
Mais je pense, on pense à ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act. Ça prend une réponse au Canada. On doit investir à plus long terme quand on pense à la transition énergétique. Ça va coûter cher, M. Arcand, la transition énergétique. Et si on n'investit pas dans nos infrastructures, si on n'investit pas dans la chaîne d'approvisionnement de la transition énergétique, ben on va se faire avoir parce que c'est très inflationniste à long terme. Alors, je pense que ce qui est important, c'est que oui, on peut donner un peu de répit au consommateur à court terme. Mais à plus long terme, il faut investir parce que si on ne crée pas de la richesse, ben on ne créera pas les capacités pour pouvoir avoir des programmes sociaux.
Vous sentez pas ce signal-là autant à Québec qu'à Ottawa?
Je le sens à Québec.
À Québec, oui.
Oui, je le sens à Québec. Je pense que l'équipe de François a définitivement, là, je dirais, là, une perspective économique à plus long terme. Je pense qu'à Ottawa, ça manque un peu.
Ça manque de gaz.
On peut le dire.
Ah, c'est un peu, c'est un peu ça.
C'est un peu ça.
Si vous aviez à donner quelques conseils à des auditeurs là qui sont pas des gens d'affaires, qui sont pas des millionnaires, là, mais des gens qui tous les jours vont travailler comme ceux qui vous écoutent ce matin, là, pour essayer d'améliorer leur sort, leurs finances personnelles, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je pense que c'est la prudence est importante. Alors il faut regarder là un peu là, la hausse qu'on a vécue du coût de la vie. C'est un nouveau niveau. Ça, c'est un impact. Les taux d'intérêt, c'est un autre impact. Et donc, il faut regarder tout ça et il faut, je pense, mieux planifier, être un peu plus prudent, autant au niveau budgétaire qu'au niveau des investissements.
Notre invité ce matin, Laurent Ferreira, qui est le président et chef de la direction de la Banque nationale. Je veux vous parler de la banque. Je vois passer des méga transactions avec la Banque Royale. TD, là, c'est sur la glace, là, mais quand même, là, on parle de transactions de 13 milliards. Êtes-vous une banque qui visait les grosses acquisitions puis devenir un joueur là qui prend encore plus de place? Est-ce que c'est ça votre plan ou pas?
Les acquisitions, les grosses acquisitions transformatrices, on n'aime pas ça à la Banque nationale. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas des acquisitions et on en a fait dans le passé, des acquisitions. Mais pour moi, ce qui est très important, puis ça fait partie de la philosophie de la banque, c'était la même chose avec Louis Vachon. Si on fait une acquisition, il faut vraiment mitiger les risques financiers et culturels. Et une acquisition, c'est risqué à ces deux niveaux-là. Donc, il faut que les lumières soient vertes si on veut faire une acquisition là, sur plusieurs points pour pouvoir entrer dans une transaction là-dedans parce que c'est déstabilisant une acquisition. Et donc, on met l'emphase sur la croissance organique. Et ça nous a très bien servi jusqu'à date. Donc, on va continuer là-dessus.
Donnez-moi des exemples de ce que vous entendez par croissance organique. Vous augmentez le nombre de clients, vous allez chercher des profils différents. Qu'est-ce que vous faites?
Alors, croissance organique, ce qu'on veut dire par ça, c'est, bon, on a des choix stratégiques à faire. On est dans, on a un focus au Canada. Grande entreprise, petite et moyenne, particulier. Et, principalement, c'est de choisir où on est fort. Puis d'aller chercher du talent, puis de mettre l'emphase là-dessus.
Mais comment on se démarque des autres banques?
Ah, c'est une bonne question. Alors, on n'essaie pas de tout faire. Ça, c'est une des choses qu'on fait à la banque. On choisit les créneaux. Je vais donner un exemple. En gestion de patrimoine. En gestion de patrimoine, on a fait un choix très clair, il y a longtemps, que c'était une business axée client et pas de la gestion d'actifs. Donc, l'objectif ici, c'est on va chercher des conseillers en placement. Et nous, on croit que le conseiller en placement a une responsabilité fiduciaire de bien conseiller son client et de lui offrir les meilleurs produits sur le marché, que ce soit un produit de la Banque nationale ou que ce soit un produit de la BMO ou de la Scotia. Et donc ça, c'est quelque chose de très différent versus les autres banques qui nous différencient et qui fait en sorte qu'on a été capable d'aller chercher et de recruter plusieurs personnes qui aiment beaucoup ce modèle-là.
Dans 5 ans, la Banque nationale va être où? Ça va ressembler à quoi? On voit là, bon, moins d'opérations dans les succursales, les sites en ligne font la job. Vous voyez la banque où?
Alors, je vois la banque continuer à croître au Canada. Je pense qu'on a encore beaucoup d'espace. Vous parlez des succursales. Je ne crois pas à une banque digitale à 100%. JP Morgan, qui est la plus grande banque aux États-Unis, ont fait un sondage auprès des clients qui ont transféré chez eux de façon digitale. Et la question posée, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Et 70% des répondants ont dit, j'ai vu une succursale au coin de la rue. Ah, donc, la visibilité est très importante. Pour moi, c'est un équilibre entre visibilité et naturellement des outils de plus en plus digitaux qui sont importants là, pour le service à nos clients.
Et comment une banque se positionne dans une société vieillissante?
Ah, écoutez, il faut continuer, je dirais, là, à bien servir nos clients. Alors, il y a une société qui vieillissante, mais on a quand même beaucoup de jeunes qui rentrent dans le pays. On a de l'immigration. Donc, il faut, d'une part, bien les conseiller pour la période après 65 ans, la personne même. Et donc, au niveau de l'investissement, au niveau des rentes et ainsi de suite. Et puis, je pense qu'il faut faire l'équilibre entre les deux. Hein. Donc, nous, à la Banque nationale, on sert notre population qui est vieillissante, mais on sert également les nouveaux arrivants, les jeunes.
Je vais vous entendre sur un phénomène qu'on a vu encore cette semaine d'une chaîne de Ponzi où une banque, la banque TD, a dû régler plus de 1 milliard tout en disant on n'a pas de responsabilité, mais on faisait affaire avec ce détenteur de fonds là, puis qui a volé ses clients. Dans le cas de Madoff, aux États-Unis, il a pu cacher des milliards dans une banque comme si de rien n'était dans des comptes en ne faisant aucune transaction. Vous êtes le président d'une banque. Comment quelqu'un est capable de, à coup de centaines de millions et de milliards, d'échapper comme ça au contrôle d'une banque?
Alors, c'est une excellente question. Une des choses qu'on répète souvent à la Banque nationale, c'est notre culture de gestion des risques. Et donc, tous les dossiers importants sont révisés par le chef des risques et moi-même à la Banque nationale. Là, je vais vous dire, être un peu plus petit, ça aide. Parce que des fois, quand tu deviens trop gros, ben, tu vois pas tout ce qui se passe, puis il y a des choses qui se faufilent. Mais ce qui est important, c'est une culture de gestion des risques. C'est pas juste une culture, c'est pas de la technologie. Là. Mais c'est de vérifier, puis de revérifier, et de re-revérifier.
Parce qu'on le voit, l'Autorité des marchés financiers fait une campagne ces jours-ci sur la crypto-monnaie, puis les arnaques et les fraudes. Ce type de danger, puis des pirates qui veulent rentrer dans vos systèmes, vous êtes confronté à ça au quotidien?
Absolument. On est confronté à ça au quotidien. Et donc, dans le cas de produits plus complexes ou de fraude, souvent, c'est... Entrons pas dans des business qu'on comprend pas trop, puis assurons-nous qu'on a des bonnes relations. Ça, c'est très important là, en termes de gestion des risques. On est confronté aussi, là, vous parlez de crypto, vous parlez d'attaques cyber également, on est confronté naturellement à des attaques cyber en tout temps, et notamment depuis un an, avec les tensions géopolitiques et ce qui s'est passé en Ukraine, les attaques ont augmenté énormément à la Banque nationale. Et donc ça, on doit investir. Donc on investit, oui, en technologie, mais là, je vais revenir à ce que j'ai dit également. On investit beaucoup et on passe beaucoup de temps à communiquer avec nos employés. Parce que c'est un danger qui et s'infiltre un peu partout. Là. C'est un danger qui nous guette, absolument.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Laurent Ferreira est le président et chef de la direction de la Banque nationale. Ben, on souligne ce matin une grande innovation en matière de chirurgie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et c'est l'histoire d'une patiente qui était tétraplégique suite à un événement en décembre 2021. Et puis, elle a pu bénéficier donc de cette innovation. Vous allez comprendre ce qui lui arrive et à quel point c'est extraordinaire. Je vous la présente d'abord. Elle s'appelle Jeanne Carrière. Madame Carrière, bonjour.
Bon matin.
Et docteur Dominique Tremblay, qui est chirurgienne à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et chef de la division de chirurgie plastique à l'Université de Montréal, est avec nous. Docteur Tremblay, bonjour.
Bon matin.
Madame Carrière, je commence avec vous. Racontez-nous là dans quelles circonstances donc vous êtes devenue tétraplégique.
Premièrement, j'ai eu un accident très grave le 15 décembre 2021. J'ai heureusement survécu à une grave tentative de suicide. Donc, je me suis réveillée paralysée tout le corps quand je me suis réveillée. Puis maintenant, je suis paralysée en haut de la poitrine jusqu'aux orteils. C'est ça. Puis j'avais les bras paralysés au début, puis les mains. Les bras, je suis capable de les bouger, mais les mains, je n'étais pas du tout capable. Puis grâce au génie de Dr. Tremblay et Bogassian, j'ai maintenant... les mains bioniques.
Docteur Tremblay, qu'est-ce que vous avez fait avec vos collègues pour changer sa vie?
Donc, on a mis sur pied une équipe multidisciplinaire avec l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal et Nautius et l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, on est une combinaison de médecins, une physiatre, ergothérapeute, physiothérapeute, puis on évalue tous nos patients, dont Jeanne. Puis on essaie vraiment d'établir c'est quoi leurs objectifs, puis qu'est-ce qui est possible aussi avec les lésions qu'ils ont eues. Puis chez Jeanne, on a fait le choix de faire une chirurgie des deux membres supérieurs. Donc, à droite, on a fait des transferts nerveux, puis à gauche, transfert nerveux et transfert tendineux.
OK, expliquez-moi ça pour que les gens comprennent bien là, ce que ça veut
c'est
dire.
C'est pas
là.
Facile. L'analogie la meilleure, c'est vraiment un peu d'électricité. Essentiellement, on a pris un nerf qui fonctionne, qui est bien connecté au cerveau, pour le rerouter vers un autre nerf qui, lui, par contre, n'a pas l'influx du cerveau suite à la lésion. Puis on redonne, une fois la connexion faite, fonction au muscle. Et donc là, Jeanne, tranquillement, pas vite, récupère la fonction au niveau de sa main droite et de sa main gauche.
Est-ce que c'est une intervention qui se fait de façon graduelle, c'est-à-dire que par étape, ou si ça prend un nombre, je sais pas moi, de semaines ou de mois avant vraiment de voir le résultat?
Donc, la chirurgie se fait en une étape. C'est une grande chirurgie, okay. Les deux membres supérieurs en même temps. Chez Jeanne, à gauche, le transfert tendineux, on a le résultat immédiat. Par contre, les transferts nerveux, ça, on va voir le résultat sur plusieurs mois, même des années. Donc, Jeanne est encore en processus de récupération, de réadaptation actuellement.
Est-ce que ça veut dire qu'avant ce type d'intervention, il n'y avait pas d'espoir pour des patientes comme Jeanne?
Essentiellement, on les laissait avec la fonction qu'ils récupéraient suite à leur accident. Donc là, en rajoutant ce type d'intervention-là, on leur améliore leur qualité de vie. Le but ultime, c'est de les rendre un peu plus autonomes, les rendre plus capables d'utiliser leurs mains. Certains vont nous dire qu'ils sont plus tétra, qu'ils sont devenus para. Donc, c'est vraiment ça le mot d'espoir.
OK. Je veux vous entendre. Jeanne, dites-nous à quel point, puis j'imagine là, quand on se réveille puis qu'on est complètement paralysé, bon, tous les changements que ça implique, la dépendance que ça crée, et là, on vous offre cette possibilité de retrouver l'usage de vos bras.
Oui, et mes deux mains vont vraiment très bien. Je suis capable maintenant d'écrire avec un crayon, manger, taper à l'ordinateur, cuisiner avec des couteaux lourds. J'ai une nouvelle qualité de vie, même que en cuisinant, récemment, j'ai réalisé que j'étais capable d'ouvrir des pots. Donc, c'est complètement miraculeux, tout ça. Puis ça me permet d'être de plus en plus autonome. Je suis capable, quand je veux me faire à manger, de le faire moi-même. Quand j'échappe quelque chose, le rattraper. Donc, c'est sûr que c'est pas des mains comme vous, mais c'est des mains utilitaires que maintenant, peut utiliser, parce qu'avant, c'est comme du spaghetti. Ils sont pas du tout utiles, puis ils sont assez précises. Je suis capable d'aller chercher jusqu'à une trombone sur une table, donc très précis, puis ça a complètement changé ma vie. Je me sens beaucoup plus paraplégique que tétraplégique. J'ai un fauteuil manuel que je peux propulser. Je suis capable d'utiliser de plus en plus mes mains, donc c'est comme si ça allait changer ma perception de l'handicap également.
Docteur Tremblay, il n'y a pas que Jeanne, il y a d'autres patients qui ont eu ce même genre d'intervention. Dans leur cas, est-ce que vous avez les mêmes résultats?
Oui, on peut vraiment dire avec assurance oui, parce que veux pas, on a commencé le projet en 2019, premier patient en janvier 2020. Puis maintenant, avec 13 patients, on a fait le calcul de 13 patients, 51 transferts nerveux, 23 membres supérieurs, tous ont eu des succès. Fait qu'on est fiers de pouvoir présenter ça, parce qu'il fallait attendre un certain moment avant de pouvoir le présenter pour permettre la meilleure récupération possible. Donc.
Et cette approche-là avec les nerfs et tout ça, vous avez découvert ça comment? C'est le fruit de recherche? C'est arrivé comment?
C'est une chirurgie qui existait déjà, des fois pour des lésions traumatiques distales, donc dans les bras, chez les patients avec des plexus brachiales. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà. C'est l'application à la clientèle des tétraplégiques qui est nouveau, qu'on a appris, moi et mon collègue, au début en Australie, qu'on a ramené tranquillement, pas vite à Montréal. Au début, il y a eu des embûches, puis en septembre 2019, c'est comme si tous les morceaux ont bien tombé, puis là, ça a vraiment pris l'envergure du projet que on vous présente ce matin.
Et est-ce que, puis là, c'est une question peut-être un peu bizarre, mais est-ce qu'on peut penser que cette approche-là peut être utilisée pour aider à redonner la vie à d'autres membres?
Ouais, j'imagine vous parlez des membres inférieurs, là. C'est sûr que c'est la question. On voudrait bien peut-être un jour. Il y a une question de distance en ce moment qui est facteur limitant. Mais on verra avec la science, la technologie, on ne sait pas où ça va nous mener. Mais c'est sûr que nous, notre objectif, c'est de rester toujours à l'affût de ce genre de choses-là pour pouvoir l'offrir à nos patients du Québec.
Ben, bravo, c'est extraordinaire ce que vous faites avec votre équipe.
Merci, merci.
Jeanne, merci beaucoup d'avoir été là.
Bien, merci à vous.
Et bonne chance. On comprend que votre vie est complètement changée.
Oui, j'aime beaucoup ma nouvelle vie.
On comprend, merci.
Merci, Jeanne.
C'était Dr. Dominique Tremblay et Jeanne de Carrière.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à m'écrire au quotidien pour me signaler vos problèmes avec la Société d'assurance automobile du Québec. Puis les problèmes, là, il y en a de toutes les sortes. D'abord, je vous parle des files d'attente, je vous parle de joindre quelqu'un au téléphone, des problèmes d'application, des problèmes de paiement, des problèmes également de transactions qui sont pourtant encaissées, réalisées, mais il n'y a pas de suivi. Puis je vais vous donner des exemples de ça. On nous avait dit que tout allait bien, qu'il y avait des petites périodes d'ajustement, de mise à niveau, mais visiblement, depuis l'entrée en service de la nouvelle plateforme, là, je vous parle du 20 février, on est le 2 mars, les problèmes persistent. Denis Marcellet est le PDG de la Société d'assurance automobile du Québec. Monsieur Marcellet, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Faites-moi donc la liste des problèmes que vous avez identifiés.
Ben, vous n'avez identifié, c'est les problèmes les plus majeurs actuellement. On est tout à fait conscient que je n'irai pas qu'il n'existe pas des problèmes au niveau de la mise en place de nouveaux systèmes SACLIC. Mais, regardez, on les prend un après l'autre, puis on va régler un après l'autre les problèmes. Je vous assure que nos équipes sont mobilisées. Je vous dis pas ça parce que j'ai pas l'intention de donner des statistiques ce matin, là. Je veux juste vous parler en mode solution. Qu'est-ce qu'on entrevoit?
Non, mais attendez. Moi, je vais vous arrêter, là. Phrases de relations publiques, de mode solution, là, on va les garder pour tantôt. Je veux entendre le PDG de la SAC me dire quels sont les problèmes sur lesquels vous travaillez.
Alors, les problèmes auxquels, les enjeux auxquels on en a à faire face le plus rapidement possible, c'est les files d'attente. Les files d'attente, dans certains secteurs, dans certains voies de service, c'est des files d'attente importantes. Puis je vous expliquerai pourquoi on a des files d'attente importantes. Et la difficulté de prendre un rendez-vous par téléphone. Parce que on dit aux gens, présentez-vous pas dans un centre de service, prenez des rendez-vous, parce que comme ça, vous attendrez pas dans la file d'attente. Il y a 60% des gens dans les files d'attente qui ont des rendez-vous. Puis il y a 40% qui se présentent en succursale sans rendez-vous. Alors, il faut développer, puis c'est ce qu'on fait, puis ce qu'on fait depuis le début de la semaine, développer des actions qui vont permettre d'accélérer le service aux clients. Puis comment on fait ça? Ben écoutez, moi j'ai fait le tour des points de service à Montréal, j'ai été à Québec, hier j'étais à Lévis, puis demain c'est à Saint-Jérôme. Alors, je vous parle en connaissance de cause, je suis pas dans mon bureau, là, puis avoir des informations. Quand je vais dans les centres, des points de service, je parle non seulement aux employés, mais je parle surtout aux gens qui sont en attente, puis je leur demande pourquoi, quelle est la raison pour laquelle ils sont venus ce matin, etc. Je vous dirais que ce matin, là, à 7h30, à L'Angelier, il y avait 50 clients qui étaient en file d'attente. Et à 7h30, il y avait déjà des employés parce que c'est une des actions qu'on a mises avant au début de la semaine. Il y a des équipes qui s'en vont dans tous les points de service lorsqu'il y a des files d'attente importantes.
OK, mais je veux juste comprendre, là, parce que là, le constat qu'il y a des files d'attente est clair, puis le constat que la prise de rendez-vous au téléphone, bien difficile dans bien des cas, parce que le système finit par nous raccrocher au nez. Exemple, hier, on dit qu'il y avait, à la place du puits, 5 heures d'attente avec seulement 2 employés au comptoir. Est-ce que ça se peut?
Oui, tout à fait possible.
Mais comment ça se fait que 2 employés au comptoir?
Oui, mais faut vous dire, M. Arcand, qu'à la place du puits, ce sont des mandataires. On n'a pas d'ascendance, nous, sur les employés des mandataires, mais on a demandé à tous les mandataires de augmenter les heures d'ouverture de leur bureau et de faire en sorte que c'est possible d'ouvrir leur bureau le samedi pour donner une plus grande disponibilité aux citoyens. Alors, on fait ça avec les mandataires, mais on se fait nous-mêmes avec nos points de service. Là. On a 44 points de service à travers le Québec et on va avoir des ouvertures le samedi pour des objets bien précis. On augmente les heures d'ouverture, mais je tiens à vous dire ce matin, là, parce que je peux vous dire, là, je peux vous entretenir longtemps, mais je sais ce que vous attendez de nous aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions.
Oui, attendez, là, pour avoir des solutions, il faut au moins savoir si vous avez bien compris ce qui se passe. Puis là, oui. On va faire un petit test, vous et moi, ce matin. Est-ce que ça se peut que depuis le début, l'implantation du nouveau système, il y a eu des ratés dans les paiements de telle sorte qu'il fallait payer cash ou par chèque?
Tout à fait. Il y a le service de paiement, évidemment, c'est intermittent, mais le service de paiement, il y a des endroits à certaines périodes où les clients ne peuvent pas payer par chèque. Ils peuvent payer par chèque, mais ils ne peuvent pas payer par carte de débit.
Okay.
Parce que les réseaux n'étaient pas fonctionnels.
Bon, est-ce que ça, c'est réglé ou ça peut revenir encore comme problème?
C'est réglé, mais je vous dirais que les endroits où on ne peut pas payer, où on ne pouvait pas payer, avec le réseau, c'est parce que c'est notre fournisseur. Même titre qu'il arrive parfois que vous allez à un endroit puis vous voulez payer avec le terminal, puis le terminal est arrêté pour quelque temps, on vit la même chose. Ce n'est pas un problème de sa clique, c'est un problème de terminaux qui sont fournis par des fournisseurs.
OK, alors, mais est-ce qu'avant l'implantation de votre système, ça marchait, puis qu'après ça, ça a cessé de fonctionner?
C'est intermittent. Mais là, je vous dis que depuis quelques jours, ça fonctionne.
Okay.
On est en ligne directe avec notre fournisseur pour s'assurer qu'un service continue. Puis voilà.
Okay.
Mais on est conscient qu'il y avait des problèmes de paiement. Puis on essaie de résoudre le problème avec notre fournisseur rapidement, mais c'est pas relié à l'avènement de notre nouvelle plateforme. Ça existait avant, ces problèmes-là.
OK, mais est-ce que ça a déjà existé pendant plusieurs jours, ce type de problème-là, avant?
Non,
en fait, juste une coïncidence. OK. Deuxième question. Je vous donne un cas, là, puis il y en a plusieurs comme ça, de gens qui ont renouvelé leur plaque d'immatriculation, qui ont payé l'immatriculation, l'argent a été encaissé dans leur compte, et ils se sont fait intercepter par la police, et ça disait que le renouvellement n'était pas fait, puis que l'argent n'avait pas été payé.
Effectivement. Puis je tiens à m'excuser auprès des personnes qui ont été interceptées par la police. Puis il y en a qui ont même eu des contraventions, là, ou des
avis
de 72 heures.
Oui.
Alors, tous les gens qui ont payé entre le 26 janvier et le 20 février, dans la période où le système, on était en service ralenti, là, parce qu'on avait 1 milliard de données à transférer dans le système. Alors, tous ces paiements-là ont été faits. Nous, on sait qu'ils ont payé, mais on l'a fait sur une forme manuelle. Là, on est en train de faire le rattrapage de février pour inscrire dans notre système tous ces paiements-là. Alors, on a avisé les corps de police, Sûreté du Québec et tous les corps de police par une note, et pour leur dire que ces gens-là, avec une preuve de paiement qu'ils ont avec eux, ben, de faire en sorte que d'avoir une tolérance. Si jamais, parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'ensemble des corps policiers, sur l'ensemble des policiers, si jamais un des auditeurs ce matin a été obligé de payer une contravention, je vous le dis là, on va lui rembourser sa contravention. Il n'est pas question qu'un citoyen a à payer des sommes lorsque notre système on est en train de mettre à jour le système des paiements qui ont eu lieu durant le mois de février.
OK. L'autre question. Est-ce que c'est vrai que pour ce qui est des fameux transits qui sont normalement d'une durée de 10 jours, on est rendu avec des transits 20 jours, puis dans certains cas, 30 jours?
Oui, c'est vrai. Parce qu'on veut pas pénaliser le citoyen durant la période où on est en rattrapage du mois de février. Alors, on demande aux commerçants, puis les commerçants sont au courant, de d'émettre un nouveau transit. Mais les transits vont être disparaître. On s'entend que le nouveau système n'aura plus de transit. Mais pour avoir une solution de mitigation, pour ne pas pénaliser le client, on lui donnait un numéro de transit pour une période prolongée pour pas qu'il y ait de problème et pour qu'il puisse circuler adéquatement.
La prise de rendez-vous, là. Je comprends qu'il y a des gens qui attendent, là, qui ont un rendez-vous, d'autres qui n'ont pas, puis il y a des gens qui veulent régler des cas urgents, là. J'en ai une liste jusqu'à demain, là.
Bon.
OK. Là, si j'ai besoin d'un rendez-vous dans une succursale de la Société d'assurance automobile du Québec, là, nous sommes le 2 mars, je devrais l'avoir quand, mon rendez-vous?
Honnêtement, ça va aller à la fin du mois de mars. C'est un problème. Bon, je vous le concède, là, c'est un problème. Si vous me donnez une minute pour vous permettre de dire comment qu'on va résorber ce problème-là. Je dois vous dire que dans les centres de service, 50% des gens qui viennent sans rendez-vous auraient pu faire cette transaction-là sur sa clé. Parce que c'est un service qui est donné par sa clé. Exemple, transfert de propriété en particulier sur un véhicule de promenade. Il y a plusieurs personnes qui se présentent dans les succursales, qui font partie de la liste d'attente sans rendez-vous, mais qui auraient pu faire cette transaction-là sur sa clé. Là, vous allez me dire, M. Arquin, que c'est compliqué. Parce que centre d'authentification gouvernementale, ça prend 4 preuves d'identité. C'est long. Il y en a qui sont pas habitués. Il y en a qui trouvent ça compliqué. Je vous le concède. Alors, à compter de la semaine du 13 mars, on va avoir dans les succursales où on retrouve un plus grand nombre de personnes en attente le matin. On va, puis on est en train de finaliser le dossier avec le ministère de la cybersécurité et numérique, qui est responsable de l'authentification gouvernementale. Alors, les gens, avec leur carte d'assurance maladie, les gens qui ont dans la file d'attente, avec leur carte d'assurance maladie et avec un téléphone, parce que ça prend le téléphone de la personne, ils vont pouvoir, on va en succursale procéder à une identification sur le centre d'authentification. Donc, seulement avec la carte d'assurance maladie. On va le prendre en charge. On va l'aider à l'authentification avec seulement la carte d'assurance maladie. Pour la suite, le prendre en charge aussi pour l'aider à ouvrir son dossier client dans sa clique. Puis après, ben, le client va pouvoir, de son confort de foyer, faire la transaction qu'il voulait sans attendre. L'idée, là, c'est qu'aujourd'hui, les gens viennent, on dit on peut pas vous recevoir parce qu'on a trop de personnes. Ils retournent chez eux, ils reviennent, ils attendent à prendre rendez-vous. Là, on veut régler le dossier une fois pour toutes avec le citoyen. Faut pas qu'il y ait à revenir.
OK. Alors, vous en avez pour combien de temps, d'après vous, à retrouver une situation, disons, acceptable ou normale?
Moi, je vous dirais, honnêtement, à fin avril. Et écoutez, on a regardé ce qui se passait à travers le monde dans ces immenses parce que vous savez que cette transformation-là est importante, on vous l'a dit à d'autres entrevues là-dessus, mais ça reste quand même que c'est majeur. C'est le dossier de transformation numérique le plus important, non seulement au gouvernement, mais aussi au Canada actuellement. Alors, ça excuse pas les délais, puis je veux pas encore une fois, je tiens à m'excuser, puis je tiens aussi à dire, M. Arcand, si vous me permettez, tous les efforts que nos employés y mettent pour donner un service adéquat aux clients, même actuellement, leur plus grande frustration aux employés, c'est qu'ils avaient l'impression avant de donner un service top-notch à notre clientèle. Là, c'est plus difficile à cause des délais d'attente et tout ça. Puis je vous dirais, si on a ces frustrations-là, parce qu'ils ont à cœur de donner un service adéquat.
Juste comprendre une affaire, là. L'application comme telle, là, avez-vous encore des problèmes de mise à niveau, de maintenance, ou si elle fonctionne?
Bien, il y aura toujours des ajustements pour les
problèmes. Oui, mais de façon...
Les problèmes majeurs, là, M. Arcand, on les a eus à la première semaine. C'est pas à l'abri d'avoir d'autres problèmes, là, mais je vais vous donner un exemple. Dès le deuxième jour, on s'est aperçu que le cœur de notre système, qui est CASA, là, qui est greffé, ça clique, notre portail, on s'est aperçu que sa capacité n'était pas suffisante. Alors, on a doublé la capacité de notre système, puis pour doubler la capacité de notre système, pour desservir adéquatement les demandes, les nombreuses demandes qu'il y avait d'accès à notre système, il a fallu obligatoirement fermer le système entre une journée, ça c'était mardi dernier, entre 10h et 14h l'après-midi. On n'avait pas le choix. Mais là, c'est réglé, là. Il n'y a plus... parce que ça provoquait un délai de traitement et tout ça. ça prolongeait l'accessibilité au système. Là, on est, c'est derrière nous.
OK. Ça veut dire en résumé, M. Marchal. Ouais. En résumé, M. Marchalet, là, ça veut dire que quelqu'un qui veut un rendez-vous l'aura pas, aujourd'hui, là, l'aura pas avant la fin du mois, puis il devra, disons, ça va aller à la fin avril avant qu'on stabilise le bateau.
Non. Regardez. Oui et non. Je vous dirais oui et non. Les gens qui se présentent en centre de service actuellement, comme je vous ai dit, il y en a 60 % à peu près qui viennent avec des rendez-vous. Eux autres, dans 15-20 minutes, ils passent. Honnêtement, là, il n'y a pas de souci. Les gens qui viennent sans rendez-vous, 40 % je vous dis qu'il y en a 50 % de ces gens-là qui auraient pu faire la transaction s'il avait été staclic. On va les aider à le faire. Fait que déjà là, on va diminuer, c'est pour ça qu'on fait ça, on va diminuer les files d'attente. Puis ça va permettre aux gens qui ont des urgences, qui ont des délais à respecter, d'avoir plus de place pour le faire. Alors, ce qu'on traite actuellement dans les 40 % urgents, c'est qu'on se garde, honnêtement, là, on se garde certaines plages dans les succursales pour permettre de régler les cas urgents des gens qui se présentent sans rendez-vous.
OK, exemple, un cas urgent, oui, c'est, donnez-moi un exemple.
J'ai mon permis de conduire. Écoutez, j'ai un exemple d'hier, là. J'étais à Lévis hier, il y a une personne qui vient, puis mon permis de conduire est échu depuis hier, je peux venir payer mon permis de conduire parce que je veux pas, c'est pour son mari, elle avait pas de rendez-vous, alors j'ai dit, madame, attendez, je vais voir ce que je peux faire, parce que je vous ai dit que je me promenais des files d'attente, là. Je sais pas, pas dans mon bureau, dans le trou d'ivoire, moi, là. Fait que, puis cette madame-là, j'ai dit, parfait, on va vous passer. Ben, la manne est venue, ça a pris 3 minutes et quart, puis on a réglé son dossier. Puis c'est ça, les dossiers urgents. Un autre exemple, aller au Bourneuf la semaine passée.
Non, mais je comprends, mais vous êtes le PDG de la place, là. Je comprends que vous ne ferez pas toutes les succursales tous les jours pour régler les dossiers urgents, là.
Non, mais les équipes qu'on envoie dans les lieux où il y a plus de personnes dans les files d'attente. À l'Angélie, là, hein, il y a 6 personnes de plus qui gèrent. Ce n'est pas des employés qui sont dans les succursales. C'est des gens qu'on prend au central, des employés, puis qu'on envoie dans ces succursales-là. Ils ont comme mandat de actualiser, puis de gérer, puis de diriger des clients qui sont en file d'attente.
OK. J'ai une dernière question parce qu'elle revient, là. Pour les fameux examens de conduite, on est rendu où, là?
Ben, écoutez, évidemment, le volet des rendez-vous, la prise de rendez-vous, c'est pas la même numéro de téléphone, et c'est pas au centre de rendez-vous. Il reste des places actuellement, M. Carapin.
Pour des examens?
Il reste des places, pour des examens parce que on avait avant le ralentissement de notre mois de février, on avait devancé des examens de conduite. On a essayé de devancer pour justement pas qu'il y ait de retard lors de l'ouverture de notre nouveau système. Et actuellement, des places. C'est pas là qu'est le problème. Okay. Le problème, c'est vraiment la gestion des files d'attente et les systèmes de rendez-vous téléphoniques.
OK.
Écoutez, si vous me permettez, là, j'aimerais dire à vos auditeurs, la majorité des appels, en tout cas, un très fort pourcentage des appels qui se font au centre d'appel, toutes les réponses, toutes les questions qui sont posées, les réponses se retrouvent sur notre site web. Notre site web d'ASAC et qu'on actualise à tous les jours. J'inviterais les gens à les voir avant d'appeler. Parce que toutes les réponses, bon, la majorité vont se retrouver là. Okay. Ça va nous aider à dégager aussi le centre d'appel puis répondre aux personnes qui en ont vraiment besoin.
Parfait. Mais en tout cas, moi, j'écoute vos réponses, là, mais au moment où on se parle, j'ai des auditeurs qui ont des prélèvements préautorisés, qui passent pas. J'ai des gens qui ont fait des paiements qui sont pas, vous m'avez dit tantôt, il faut mettre ça à jour. Il y a des gens qui, ça indique qu'ils ont un dossier médical qui a échoué. Bref, c'est comme si la mise à niveau des informations était pas bonne.
Non, mais c'est vraiment le fait de rattrapage des dossiers du mois de février. Okay. Puis concernant les paiements, M. Arcan, là, on est en train de régulariser la situation parce que la majorité des gens payent via leur institution financière. Alors là, on est en train d'arrimer dans nos systèmes les informations des différentes institutions financières. Puis pour éviter que des citoyens aient des problématiques, dans le dossier client, lorsque un policier appelle le CRPQ, là, qui est l'inventaire de si jamais il cherche une autre plaque puis il veut savoir si le client a payé ou pas payé, ben à partir de depuis lundi, c'est inscrit dans le dossier du client du CRPQ que son permis est valide. parce qu'on donne un délai de grâce, regard aux circonstances, d'une vingtaine de jours pour laisser le temps aux institutions financières de faire l'arrimage avec le nouveau système. Alors, avant lundi, il peut avoir eu des problèmes, mais depuis lundi, on prolonge le délai pour être valide dans le profil du client et les corps policiers sont au courant de ce fait.
Parfait. Merci, M. Marcellet.
Ça fait plaisir, M. Arcan.
Denis Marcellet est le président directeur général de la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, vous me tiendrez au courant de l'évolution de votre dossier. Tu sais, qu'il y a des ajustements, c'est normal, là, mais tu sais, il y avait des trucs là qui devenaient complètement... tu sais, des gens qui se font intercepter puis donner une contravention, là, puis c'est arrivé à un collègue de travail ici, sa fille. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus nice.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Parfait. On parle souvent des parents hystériques, des gens qui deviennent fous dans les arènes, qui engueulent les joueurs, qui engueulent les arbitres, qui engueulent les autres, je vous dirais, parents, puis des fois même des joueurs de leur propre équipe. Et là, à Saint-Jérôme, à la Fédération des clubs de hockey mineur, ils ont pris une décision quand même plutôt rare, c'est-à-dire de radier un parent. Ce qui est quand même pas rien. On n'est pas juste dans l'avertissement ou une courte suspension. Il est radié pour plusieurs années. J'en parle avec Martin Labrosse, qui est le président de la Fédération des clubs de hockey mineur de Saint-Jérôme. Monsieur Labrosse, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous résumer le cas là, de ce parent là, que vous avez dû donc expulser.
Bon, on va rester quand même dans les limites parce qu'il y a une personne humaine derrière ça.
Oui, oui. Il faisait quoi?
Vous l'avez bien décrit, M. Arcan. Là, c'est pas mal tout ça, sans aller dans les détails, mais ça ressemble à ça. Mais c'est juste que c'était récurrent. C'est ce qu'on appelle un parent récidiviste, plusieurs présences au comité de discipline. Alors, la COVID fait que maintenant, il n'y a pas eu d'événement, mais là, la COVID terminée, on a rien un peu dans le même pattern, donc on a décidé de prendre cette décision-là. Puis, c'est important de mentionner que c'est pas les décisions de Martin Labrosse, mais bien celle du CA au complet, c'était unanime.
OK, mais juste, je veux pas le détail pour identifier la personne, là. C'est pas ça mon objectif. Moi, je veux juste comprendre que il y a eu des rencontres avant, il y a des gestes qui remontent à un certain nombre d'années.
Ça remonte à 2016.
OK.
Exactement. Donc, depuis 2016, il y a un événement minimum par année. Donc, nous, on a un comité de discipline qui est très efficace. Puis, on collige de l'information dans un nuage, dans le drive, qu'on appelle. Puis, on est capable de retracer un petit peu le score, comme on va dire, là, sur les parents, sur les joueurs, sur les bénévoles. Puis, bien évidemment, c'est un parent qu'on avait énormément d'informations. Puis, on voulait juste arrêter que ça se trouve. On veut arrêter ça. On veut plus ça dans nos arènes, simplement.
OK. Et j'imagine que dans les étapes, avant, les premières étapes, on jase avec, on lui essaie de lui faire comprendre que ça se fait pas.
On l'a fait à plusieurs reprises, M. Arcan, puis c'était écrit dans ses engagements que ça devait arrêter, sinon qu'elle était passée de suspension à long terme. Donc, on sait là qu'on est.
OK, mais ce que je veux dire, est-ce que il comprenait que ça se faisait pas? Y avait-tu l'air d'un gars de bonne foi ou s'il y avait l'air du gars qui dit « Moi, je me sac de ce que vous me dites, mais faire ce que je veux? »
Ça reste une perception, puis je pourrais me tromper, mais je pense que vous avez une bonne lecture là, en disant que... Ben, tu sais, comment j'expliquerais ça? En restant dans les limites, là, moi, quand je pense, quand ça fait depuis 2016 que t'as un événement, et je pense que la personne comprend pas, là. On ne tournera pas autour du pot, là. Je pense que c'est ça que ça veut dire pour moi, là.
OK, puis concrètement, ça veut dire quoi, là, être radié? Il est pour combien de temps, puis qu'est-ce que ça implique? 6 ans.
Ouais, 6 ans, en fait, c'est simple. Nous, ce qu'on veut préserver, c'est le joueur. C'est le joueur, lui, il est le bienvenu dans l'équipe. On attend toujours les informations de l'autre parent pour qu'il puisse au moins venir à l'aréna et qu'il soit supporté par son autre parent, mais on veut de nous donner les coordonnées pour que le jeune puisse jouer au hockey. Donc ça, c'était l'entente d'abord. Puis ensuite de ça, ben on a mis 6 ans parce que le jeune a 12 ans, puis dans 6 ans, ben, il va être majeur, donc ça va être lui le membre. On va dealer avec le joueur et non le parent.
Mais en même temps, vous êtes pas des policiers, là. Vous pouvez pas contrôler ce qui se passe dans les arénas.
Non, mais on a un support quand même. Nous, à Saint-Jérôme, c'est un bâtiment qui est géré par 3 maires. Donc, c'est 3 villes qui sont un peu responsables de l'aréna avec un PDG. Puis, on les a rencontrés parce qu'on savait que ça s'en venait, là. On voyait ça venir. Puis, on a le support des 3 maires. Puis, on est supporté vraiment. Mais c'est sûr que nous, on gère le hockey, puis nous, on gère pas l'aréna. Mais c'est sûr que si, comme c'est écrit dans la radiation, c'est que si on la voit dans la personne dans l'aréna, ben c'est sûr que malheureusement, les jeunes devront quitter.
Je vous dirais une chose, M. Labrosse. C'est heureusement qu'il y a des gens comme vous qui prenez ce type de décision. Parce que y a personne qui a envie d'être bénévole, qui a envie d'être un arbitre, payer pas trop cher, puis se faire crier après. Puis comme parent, t'as pas envie que tes enfants se crient après. T'as pas, je veux dire, t'as le droit de pratiquer ton sport dans un environnement qui soit, j'allais dire, c'est un gros mot là, mais sécuritaire, puis qui soit surtout agréable. Puis on n'a pas à tolérer des fous furieux qui sont frustrés pour toutes sortes de raisons dans leur vie, puis qui se défoulent comme ça dans le cadre d'activités sportives. T'sais, ça n'a pas de bon sens.
C'est pour ça qu'on le fait. T'sais, comme vous dites, on est bénévole, on n'a aucun montant d'argent relié à ça. Puis on le fait justement parce qu'on y croit. Là, t'sais, le bénévolat, il faut y croire quand même parce que j'ai pas d'enfant qui joue moi là-dedans. Là, je fais ça gratuitement, bénévolement, parce que j'y crois. En même temps, j'entends des histoires comme quoi on veut enlever les parents des arénas. Puis nous autres, on veut pas en arriver là. On veut que les parents viennent voir leurs enfants parce que, tu sais, on va se dire, c'est 5% de la masse là, qui va agir comme ça. Là, donc, nous autres, on appelle ça les 5%istes, là, mais t'sais, on va les gérer, c'est correct.
Okay.
Mais c'est plus nous autres, on veut pas emmener ce que les arénas soient vides de parents. Là.
Merci, M. Labrosse.
Plaisir.
Au revoir, bonne journée. Martin Labrosse est le président de la Fédération des clubs de hockey mineurs de Saint-Jérôme.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.